secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
À l'heure actuelle, les rares nouvelles qui transpirent encore parlent d'émeutes semblables à Cracovie, Danzig, Lotz et Katowice.
La Pologne est mal remise de ces blessures de guerre qui ont été cruelles.
Les témoins auxquels j'ai parlé affirment avoir vu des fonctionnaires du Parti communiste prisonniers des manifestants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
En concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. C'est toujours, et nous le savons bien, un sujet de curiosité, de réflexion et souvent d'inquiétude que la manière dont une société et ses gouvernants malaxent le passé pour le faire servir à des desseins contemporains. Il s'agit au premier chef de ces fameuses lois mémorielles qui se mêlent d'imposer aux historiens, aux journalistes et en somme à l'ensemble des citoyens une vision spécifique de ce qui fut, au service de ce que l'État voudrait faire de la nation, à plus ou moins bon escient. Au début de 2018, en Pologne, une loi a été adoptée, punissant d'un maximum de 3 ans de prison, je cite, « l'attribution à la nation ou à l'État polonais, en dépit des faits, de la responsabilité ou de la co-responsabilité des crimes nazis commis contre les Juifs pendant la guerre ». La loi a été ensuite adoucie, mais elle a attiré l'attention de l'Europe tout entière sur la complexité des relations que ce pays entretient avec son passé et sur les controverses ardentes qu'elle suscite. Tel est donc notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons traiter des brûlures de l'histoire en Pologne, non sans élargir notre curiosité vers un passé bien antérieur à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ces multiples malheurs dont le peuple et son territoire ont été frappés à travers les siècles et qui ont laissé naturellement des traces profondes. Je vais vous faire profiter, à cette fin, de la compétence rare de Jacques Rupnik, directeur de recherche au Centre d'études internationales de Sciences Po, le CERI. Il est aussi professeur invité au fameux Collège d'Europe de Bruges. Il est un excellent connaisseur de l'ensemble de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, et avec lui, nous ne nous interdirons certainement pas d'élargir la focale au-delà de la seule Pologne, vers les pays alentours. France Culture fait souvent appel à sa compétence, mais aujourd'hui, il est ici, et tant mieux.
À son Excellence, Monsieur Ignace Paderewski, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais. Paris, le 23 février 1919. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République française a décidé de reconnaître officiellement la Pologne comme État indépendant et souverain, et son gouvernement appuyé sur la volonté nationale comme gouvernement régulier. Des liens immémoriaux unissent la Pologne et la France. Dans aucun pays, la renaissance de votre patrie après un long martyr qui n'a pu l'abattre, a été souhaité plus ardemment qu'en France et n'y aura un plus grand retentissement. La Pologne rentre dans la vie des nations par la victoire de ses troupes, de nos soldats alliés, sur les ennemis des peuples libres, et cette victoire est le gage de l'avenir heureux de votre patrie. C'est avec une profonde émotion que je vous adresse les vœux de la France pour le bonheur et la prospérité de la Pologne renaissante. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une lettre que Stéphane Pichon, ministre des Affaires étrangères de Clémenceau, une lettre datée du 23 février 1919, adresse à Ignace Paderewski, qui est le ministre des Affaires polonais. Je rappelle que Clémenceau aimait beaucoup Paderewski, qui était un grand pianiste. Il disait de lui, il l'a dit à son... secrétaire Martet, à un moment donné, je ne comprends pas qu'un homme qui fréquentait de si près la beauté, et puis à un moment donné, quel courage plonger dans les marécages de la politique.
Oui, c'est une très belle formule et c'est vrai que ça peut surprendre de voir un compositeur du talent de Paderewski s'égarer dans la politique. Mais il ne s'égarait pas dans la politique, il était au service de la nation, d'une grande cause. En 1918, il est le ministre des Affaires étrangères, ça ne durera pas, mais je crois que ça c'est important de voir que les hommes de culture... des artistes, des écrivains, etc., sont propulsés en Europe centrale sur le devant de la scène politique, parfois.
Parce que
les élites politiques ont été décimées et que donc ils sont une élite politique de substitution, en quelque sorte. Et bien entendu, on a retrouvé ça après 89.
Mais vous avez bien compris que j'ai choisi ce texte pour ouvrir notre conversation parce que il marque d'un sceau lumineux la résurgence d'un pays qui, depuis plus d'un siècle, avait disparu. C'est une donnée fondamentale. C'est pourquoi j'ai envie que nous revenions en arrière. Je me suis laissé dire que vous allez publier tout prochainement à Prague, dans la République tchèque, un livre dont le titre s'inspire d'un mot de Borges. Ça s'appellera « L'Europe centrale comme un oiseau avec les yeux derrière la tête ». J'espère que le livre sera bientôt traduit en français. Un oiseau avec les yeux derrière la tête, ça pourrait presque être un titre de substitution pour Concordance des temps.
C'est ça. Si un jour vous voulez changer le titre, ça c'est un titre
qu'on
peut partager puisque c'est Borges qui l'a inventé. C'est une belle formule. N'oublions pas l'oiseau Gouchous qui vole en arrière parce qu'il ne s'intéresse pas où il va, mais d'où il vient. Voilà. Et donc, ça j'allais dire, ça colle assez bien, non seulement à votre émission, mais aussi à une région et à un pays, en particulier la Pologne, qui disparaît de la carte à la fin du XVIIIe siècle avec les trois partages. Et donc, entre 1775 et 95, vous avez là les partages, les fameux partages de la Pologne. La Pologne disparaît de la carte et à ce moment-là, la mémoire de la Pologne, la défense d'une certaine idée de la Pologne, de son identité culturelle aussi, devient absolument fondamentale. Et donc c'est pour ça que les artistes et les hommes de culture ont une telle place. C'est aussi pour ça que l'Église catholique a une telle place. Parce que quand disparaît l'État, c'est l'Église qui incarne la continuité de l'État. D'ailleurs, le primat de l'Église s'appelle Inter Rex. Il est là pour assurer, symboliquement au moins, la continuité de l'État. Et donc ça, c'est... Vous souvenez de la formule dans Ubu Roi, Alfred Jarry. Ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Voilà. Ça résumait la situation. Un grand État européen disparaît de la carte pendant 130 ans. Et faut savoir que c'est un grand État. Hein, quand on lit la constitution polonaise de 1791 et qui énumère tous les territoires qui sont concernés et la Lituanie, et une grande partie de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, Kiev, Biélorussie, etc. C'est une grande Pologne, c'est une grande puissance, c'est un grand pays européen qui disparaît de la carte.
Avec l'union polono-lituanienne, et il y a le siècle d'or pour la Pologne, qui est le XVIe siècle, qui fait partie sûrement de cette nostalgie qui nourrit aujourd'hui une certaine forme de nationalisme polonais, est-ce que je me trompe ?
L'union polono-lituanienne... 16e siècle, vous dites siècle d'or, mais jusqu'au 17e, c'est quand même, il y a là une longue expérience où dans, j'allais dire, la carte mentale des Polonais, dans l'univers, la représentation de ce qu'est leur pays, c'est pas seulement la Pologne d'aujourd'hui. Il y a cette histoire-là, cet espace polonais où l'influence polonaise était dominante pendant des siècles. Et donc, et c'est là aussi qu'est née la rivalité avec la Russie pour cet espace entre la Pologne et la Russie. Donc quand on parle Biélorussie, Lituanie, Ukraine, bien entendu, dans l'imaginaire polonais, c'est quelque chose qui résonne.
Comme on le retrouve en Hongrie aujourd'hui, après des amputations évidemment beaucoup plus récentes qui datent de cette même année 1918.
La Hongrie a perdu deux tiers de son territoire et s'est retrouvée avec des minorités nationales dans tous les pays voisins. Et donc là, nous avons une situation où il y a le traumatisme d'avoir perdu des territoires et de voir une population magyarophone dans les pays voisins. Ça, c'est le traumatisme des Hongrois. Et donc, après 1918, ils sont dans la révision des frontières. Ils sont des révisionnistes.
On ne peut pas comprendre Orban sans ça.
On ne peut pas comprendre d'abord le régime Horthy, qui se nourrit de l'anti-bolchevisme.
Le dictateur de l'entre-deux-guerres.
Le régime autoritaire, disons, de l'entre-deux-guerres, anti-bolchevisme et irrédentisme. La Pologne est différente parce qu'elle renaît de ses cendres en 1918, mais c'est une grande Pologne. Un tiers de la population polonaise est composée de minorités nationales. Il y a des Ukrainiens, il y a une grande population juive, 3 millions d'habitants, il y a une minorité allemande, etc. Donc c'est un pays où on a les minorités aussi.
C'est le cas de toute l'Europe, puisqu'après Versailles et les autres traités, il y a encore un tiers de minorités qui ne constituent pas des nations et habitent dans des pays qui ne sont pas d'abord les leurs.
On a redessiné la carte après la désagrégation des empires, après la Première Guerre mondiale, et on a prétendu créer des États-nations. Mais c'est des États-nations qui comportaient, pour l'ensemble, à peu près un tiers de leur population était composée de minorités. C'était vrai pour la Pologne, c'était vrai pour la Tchécoslovaquie, mais c'était vrai pour la Roumanie, etc. C'était vrai pratiquement pour tous les pays de la région. Mais ce qui est intéressant pour les Polonais, c'est que ça renvoie au dilemme qu'ils ont eu pendant toute la période où ils avaient justement disparu de la carte. Et le grand dilemme du 19e siècle, c'était entre ceux qui disait, il faut s'accommoder des réalités. Il faut une Pologne plus étroite, plus restreinte, homogène, et qui s'accommode avec la Russie. C'était la thèse de Dmowski, le leader de la démocratie nationale, du parti de la démocratie nationale. Et il y avait l'autre version, celle qu'incarne Piłsudski en 1918, mais qui était là bien sûr avant.
Le maréchal Piłsudski dont nous allons reparler.
Et qui lui est pour la grande Pologne, multinationale. Il préconise même une fédération, n'est-ce pas, la Pologne comme État fédérateur, fédéral. Et donc, il y a ces deux visions de la Pologne.
Il faut rappeler que la Pologne avait été démembrée entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Cette fameuse constitution de 1791 est aussi une part de la nostalgie de la Pologne d'aujourd'hui, puisqu'elle est antérieure de quelques mois, on est très fiers de cela en Pologne, à la constitution française, la première constitution française que nous savons.
Absolument. Disons, c'était en quelque sorte le chant du cygne de la Pologne nobiliaire du XVIIIe siècle, qui produit cette constitution de 1791, comme vous dites, la première, et ils sont très fiers de ça, la première constitution démocratique.
Peut dire qu'elle est démocratique? Elle marque encore la division en classes.
Oui, c'est une constitution, disons, libérale. Il y a la souveraineté de la nation, mais qui est le dépositaire de la souveraineté de la nation? C'est la noblesse. Et donc, la nation politique, c'est la noblesse.
La noblesse qui avait une responsabilité, en vérité, dans la mort de la Pologne. C'était un système un peu fou, où il fallait un accord unanime pour prendre beaucoup de décisions.
Oui, alors le fameux liberum veto, n'est-ce pas, évidemment, a été beaucoup, longtemps considéré comme une des causes majeures, disons, de l'ingouvernabilité de la Pologne, de sa faiblesse, qui la rendait vulnérable par rapport à ses voisins.
Mais c'est aussi ce démembrement qui explique la popularité de Napoléon parmi un certain nombre de Polonais qui, au fond, ont cherché une sorte de patriotisme de substitution en France. Je vais vous faire écouter, Jacques Rupnik, c'est une chanson qui s'intitule « Les adieux des chasseurs à cheval de la garde impériale aux lanciers polonais ». C'est une chanson qui est interprétée par Aimé Donia, une chanson qui remonte à 1814-1815.
Dans la froide Scandinavie, du héros retentit le nom. Soudain, la Pologne asservie se lève pour Napoléon. Il avait brisé les entraves de ce peuple ami des Français. Et la France, au rang de ses braves, compta les lanciers polonais. Et la France, au rang de ses braves, compta les lanciers polonais. sans regret quittant leur patrie, pour Napoléon ses guerriers vont jusqu'au champ de Libérie cueillir des moissons de laurier. Partout où l'honneur les appelle, ils volent tenter de haut fait. Et partout la gloire est fidèle aux braves lanciers polonais. Et partout la gloire est fidèle aux braves lanciers polonais. Quand la fortune trouve volage, quand la plus noire trahison, ensemble ont trompé le courage de notre grand Napoléon. Il fit en déposant les armes de touchants adieux aux Français, et l'on vit répandre des larmes aux braves lanciers polonais. Et l'on vit répandre des larmes aux braves lanciers polonais.
Les lanciers polonais jusqu'en Espagne, jusqu'en Ibérie. Est-ce que l'image de Napoléon reste actuellement positive dans la mémoire polonaise, Jacques Rupnik ?
Je crois qu'elle reste positive dans la mesure où Napoléon et sa campagne à travers l'Europe et jusqu'en Russie fait naître l'espoir de retrouver l'indépendance. Donc évidemment, c'est pas forcément une adhésion au régime qu'il représente, mais c'est certainement voilà, c'est lui qui remet en cause l'ordre européen, et la partition de la Pologne à la fin du XVIIIe est une catastrophe pour le pays, et celui qui remet en cause ce statu quo là est évidemment le bienvenu, et donc ça c'est quelque chose de très important. Plus généralement, je dirais, l'image de la Révolution française surtout dans les débats intellectuels entre historiens est généralement moins favorable que celle de Napoléon. Mais enfin, derrière la Révolution, on voit aussi la terreur qui vient, et donc le dilemme que Vaïda, dans son célèbre film Danton, n'est-ce pas, le dilemme Danton contre Robespierre, voilà, l'idée que la révolution avale ses enfants, les détruit, et donc oui, elle est faite au nom de la liberté, et elle finit par la détruire. Ça, je pense que c'est surtout dans un pays qui a vécu une autre révolution, celle des communistes, et qui ont aussi invoqué la liberté pour la bafouer ensuite. Ça, je crois que voilà. Donc l'image de la révolution n'est certainement pas si favorable. L'image de Napoléon, par contre, alors lui, voilà, il a contesté l'ordre européen qui a fait disparaître la Pologne de la carte.
La grande révolution, mais les révolutions de 1830 et de 1848 restent positives, puisque c'est l'occasion d'accueillir un certain nombre d'exilés et en particulier de grands intellectuels, je pense à Mickiewicz par exemple.
Positive pour par exemple pour la France, qui accueille donc des exilés polonais, et quel exilé, hein, Mickiewicz, grand poète. Les Français n'imaginent pas ce que représente Mickiewicz dans la mémoire, dans la littérature polonaise. Il y a pas un enfant polonais qui ne connaisse pas Pantadeusz, l'œuvre majeure de Mickiewicz, qui commence d'ailleurs par ces paroles: Lituanie, ô ma patrie.
Je rappelle la période lituano-polonaise.
Et oui, et Mickiewicz lui-même, il était originaire de Vilno, qui est devenu Vilnius aujourd'hui, mais c'est une ville polonaise. Czesław Miłosz, le grand écrivain, le poète polonais, prix Nobel de littérature, originaire de Vilno. Pilsudski lui-même, originaire de Vilno. Donc, il faut voir que quand on dit cet espace fait partie de l'imaginaire polonais, c'est pas un vague souvenir, une vague rhétorique. C'est que non, Vilno était un grand centre, voilà, d'une certaine Pologne qui rayonnait à l'est. Et d'ailleurs, quand on lit Czesław Miłosz, il a un magnifique échange de lettres avec un poète lituanien, Tomasz Venclova. Et ils sont tous les deux de la même ville. Pour l'un, avant-guerre, c'était Vilno. Pour l'autre, après la guerre, c'est Vilnius. Et Miłosz lui décrit ce qu'était la ville avant-guerre. C'était une ville multinationale, avec une grande communauté juive. Il y avait des Russes, il y avait des Allemands, on parlait toutes les langues, etc. Mais enfin, c'était polonais. Or, Venclova lui répond: « Mais nous n'avons pas connu la même ville. » C'est la capitale de la Lituanie. les Juifs ont été exterminés, les minorités expulsées, les Polonais, etc. Et donc, ça, je crois que ça résume assez bien, d'abord, la nouvelle donne après la Deuxième Guerre mondiale, le fait que le même endroit puisse être symboliquement important pour deux nations qui ont été associées pendant longtemps, mais qui peuvent devenir rivales.
Leurs rapports sont difficiles aujourd'hui?
Difficiles pour ce qui concerne la minorité polonaise en Lituanie. Les Polonais sont très mécontents du traitement. Et évidemment, ça se comprend, les Lituaniens affirment très fortement leur construction nationale se fait parfois aux dépens d'un pluralisme vis-à-vis des minorités. Et vous avez le même phénomène vis-à-vis de l'Ukraine. Il a fallu pour le nationalisme polonais se débarrasser de cette image mentale d'une Pologne qui rayonne sur toute la partie orientale.
La Hongrie n'a pas réussi, mais la Pologne réussit à peu près.
La Pologne a réussi à le faire. Et à nouveau, Paris, c'est pas seulement l'exilé Mickiewicz à Paris qui est un symbole, mais il y a d'autres exilés. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à Paris que s'établit le siège de la principale revue culturelle polonaise en exil, Kultura.
Il y a la bibliothèque polonaise de l'île Saint-Louis, qui est un lieu qui a été essentiel pour le maintien et l'entretien.
Depuis le 19e siècle, vous avez donc une continuité. La Pologne, l'idée que l'exil fait partie de la nation, la Polonia, c'est-à-dire les exilés polonais font partie de la nation. Un exilé tchèque qui part aux États-Unis, il est perdu. Il fait sa vie aux États-Unis, il devient américain. Les Polonais à l'étranger font partie de la nation, et donc ça vaut bien sûr d'autant plus pour les exilés.
Naturellement, ils font des chahuts lorsque le tsar vient à l'invitation de Napoléon III en France. C'est un ami des Polonais, le fameux avocat Charles Floquet, qui apostrophe le tsar en lui disant « Vive la Pologne, monsieur ! »
Vive la Pologne, monsieur. Le mot est resté et il a été ensuite réemployé souvent. Mais je dirais, c'est cette revue à Paris et son directeur Giedroyc qui a un des premiers anticommunistes, mais qui a tout de suite dit si la Pologne veut renaître un jour, elle doit se débarrasser de cette image nationaliste de la grande Pologne. Elle doit reconnaître les nations tard venues. Ukrainien, lituanien, biélorusse. Et je me souviens de Bronislaw Geremek, ministre des Affaires étrangères, venu à Paris rendre hommage justement à Giedroyc.
Grand compagnon de Wałęsa, un des grands combattants de...
Grand historien et grand compagnon de l'aventure de solidarité.
Je vous le ferai entendre tout à l'heure.
Mais ce que dit à ce moment-là Geremek, c'est que notre politique étrangère de la Pologne actuelle doit justement s'inspirer de Giedroyc et de l'idée de Kultura. Nous devons reconnaître l'indépendance de ces nations pour établir de bonnes relations avec nos voisins et par là même, si vous voulez, dépasser les traumatismes, les tensions historiques, et ça veut dire dépasser un certain nationalisme polonais.
Alors je voudrais maintenant, Jacques Rupnik, que nous en venions à cette fameuse théorie de l'illibéralisme. C'est-à-dire l'évolution de la Pologne d'aujourd'hui, chercher dans le passé ce qui peut expliquer cette situation. Je vais vous faire entendre un texte que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un extrait d'un discours de Joseph Pilsudski. Vous l'avez déjà souvent évoqué, cette personnalité qui a été d'abord élue démocratiquement et qui en 1926 fait un coup d'État en expliquant que la démocratie ne peut pas fonctionner. C'est un propos qu'il tient devant les représentants des partis de la Diète le 9 mai 1926. Il est lu d'ailleurs par André Séverine en février 1982. André Séverine, qui est un acteur de la Comédie française d'origine polonaise et qui interprétait Robespierre dans le film de Wajda que vous avez cité tout à l'heure. Écoutons Pilsudski. Vous verrez que ça sonne assez actuel.
Aux représentants des partis de la Diète, le 29 mai 1926. Je ne me livrerai pas à une discussion des événements de mai. Je m'y suis décidé seul, d'accord avec ma conscience, et je n'éprouve pas le besoin de m'en expliquer. Les causes principales de l'état de choses qui règne actuellement en Pologne, c'est-à-dire de la misère et de la faiblesse intérieure et extérieure, sont les méfaits restés impunis. L'intérêt particulier est devenu prépondérant en Pologne et l'impunité est acquise à tous les abus et à tous les crimes. La renaissance de l'État n'a pas été suivie d'une renaissance morale de la nation. À mon retour de Magdebourg, quand j'ai été investi d'une autorité que personne en Pologne n'avait jusque-là possédée, j'ai cru à la renaissance de la nation. Je me suis donc refusé à gouverner au fouet et j'ai remis le pouvoir aux mains d'une diète constituante convoquée par moi et que d'ailleurs j'aurais pu ne pas convoquer. Cependant, la renaissance de la nation ne s'est pas produite. Les coquins et les canailles se sont poussés au premier plan. Cette renaissance ne s'est manifestée que dans un domaine, dans celui de la lutte armée, dans celui du courage personnel et de l'esprit de sacrifice envers l'État pendant toute la durée de cette lutte. C'est ce qui m'a permis de terminer la guerre victorieusement. Dans tous les autres domaines, aucune renaissance ne s'est produite. J'ai constaté seulement des conflits permanents de personnes et de partis, une étrange tendance de la lie de la nation à se pousser au premier plan et la prépondérance cynique et hantée d'éléments parfois prêts à se vendre. L'avilissement public a pris une telle ampleur en Pologne, on a tellement abusé des libertés démocratiques qu'on n'eût pu arriver à prendre en aversion la démocratie tout entière.
On a abusé des libertés démocratiques, Jacques Rupnik. Vous pensez que certains de ces propos pourraient être tenus par des dirigeants d'aujourd'hui, du PIS, le frère Kaczynski, celui qui survit?
Je crois que ce discours résonne assez, de façon assez actuelle, et à la fois le thème de la renaissance espérée n'a pas eu lieu, ça c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui aussi, parce qu'on le retrouve, hein. Après 89, on attendait la renaissance, après le communisme, etc. Ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les élites post-communistes avec les élites post-dissidentes se sont mis d'accord et regardez, ça a créé un régime corrompu, faible, etc. Bon, donc la renaissance n'a pas eu lieu. Et deuxième thème, abus des libertés. Et donc, voilà, cette prolifération des libertés, voilà, au nom du constitutionnalisme, au nom de l'Europe, au nom de tout cela, eh bien, on finit par perdre l'essentiel qui est la volonté de la nation.
Donc l'attaque contre les contre-pouvoirs qui inquiète tellement aujourd'hui, elle est déjà présente dans la bouche de celui qui va être un dictateur, en gros, jusqu'à sa mort en 1935.
Oui, il considère, Pilsudski dans les années 20, considère que le nouveau régime né, donc, des grands espoirs de la démocratie, est un régime faible et paralysé. Parce que il faut se souvenir que la Pologne, à l'époque, il y avait 92 partis, dont 32 étaient représentés à la diète. Hein, c'était la proportionnelle intégrale. Or, pour Pilsudski, ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est la politique étrangère, c'est la géopolitique. Il y a la Russie d'un côté, il y a l'Allemagne de l'autre. Et donc, il faut un régime fort. Et donc, je crois que ça, c'était un peu la justification, mais voilà, mettre un terme au régime des partis. On pourrait appeler ça comme ça. Ce modèle, disons, d'un parlementarisme faible et inefficace, impuissant, voilà, et balayé à partir de 26 par Pilsudski et jusqu'à sa mort en 35, on aura ce régime autoritaire.
Et après,
et
après régime
ça continue avec le colonel Beck, etc.
Alors arrivons-en à la Seconde Guerre mondiale qui est essentielle.
Mais c'est intéressant de se souvenir que Kaczynski aujourd'hui reprend le terme de Naczelnik, le chef, le dirigeant, qui était le terme utilisé par Pilsudski à l'époque. Et que comme Pilsudski, il ne prend pas la place centrale au gouvernement. Pilsudski a exercé à deux reprises brièvement le poste de Premier ministre. Il se contentait d'être chef des ministres des armées, mais il restait en dehors. Hein. Comme dirait Obama, « leading from behind ». Il était dans les coulisses et il dirigeait de là. Eh bien, Kaczynski, aujourd'hui, fait la même chose. Il n'est pas Premier ministre, il n'est même pas au gouvernement, il est simple député, mais c'est lui qui tient le parti, et c'est lui qui tient, en gros, le régime illibéral qui s'est instauré en Pologne.
Eh bien, voilà un beau rebond, vous ne le démentez pas.
Je ne le démens pas. Je trouve paradoxal que le régime Kaczynski, aujourd'hui, fasse la synthèse entre les deux traditions antagonistes en Pologne. Il y avait la tradition de Dmowski, la démocratie nationale, qui voulait une Pologne restreinte, homogène, ethniquement, polonaise, disons. Et il y avait, comme j'ai dit, Pilsudski qui voulait la grande Pologne, multinationale, fédérale, etc., etc. Et Pilsudski venait du Parti socialiste. Donc c'était la gauche et les autres c'était la droite nationaliste, avec évidemment sa dimension antisémite. Eh bien, Kaczynski, à sa façon, a fait la synthèse. C'est-à-dire qu'il reprend chez Pilsudski le gouvernement fort, le régime illibéral. On a besoin d'une Pologne qui sait où elle va et qui ne se laisse pas trop contraindre par la prolifération des libertés, par ce qu'il appelle l'impossibilisme légal. Donc à la fois, il hérite de Pilsudski ce côté voilà de pouvoir fort et autoritaire, et en même temps, dans sa conception de la nation, il est chez Dmowski. Il est l'héritier de Dmowski, de la Pologne restreinte, homogène, chrétienne et non seulement ne s'intéresse pas aux minorités, mais qui, dans le contexte actuel, refuse les migrants. Bon.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.